Bonjour à tous, à toutes. Quand Pedro a dit on va laisser place à nos prédicateurs, j'ai commencé à me demander si j'étais le seul ce matin, parce que c'est déjà très long ce que je vous propose, donc je vous préviens, hein, 11h10. Effectivement, on entre dans ces semaines de la semaine sainte, comme on a l'habitude de l'appeler, la semaine de la Passion. Et dans une semaine, on va fêter Pâques, le retour à la vie de Jésus après sa mise à mort le vendredi, sa sépultation. J'ai appris un mot ce matin. Je pense que c'est espagnol, sepultación, non? C'est français? Ok. Alors j'ai appris un mot, effectivement. Et donc on va entrer dans cette semaine riche, très riche en événements, comme nous le racontent les différents évangiles. Et les évangiles, si vous les lisez en parallèle, ils ont différents focus, différents détails particuliers qui se complètent de façon inspirée. Et j'ai choisi ce matin de prendre le passage dans Jean 12, versets 1 à 36. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmiers et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu sur cette terre, jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel, « J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ses paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire « il faut que le Fils de l'homme soit élevé » ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit « la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Un passage très riche, trop riche sans doute pour trois ou quatre prédications. Donc m'en voulez pas, je ne vais pas toucher tous les détails de ce texte. Mais c'est intéressant, dans le contexte, le passage juste avant dans Jean, c'est la résurrection de Lazare. Et puis ce passage-là, qui ouvre la Semaine Sainte, démarre par ce repas chez Lazare, Marie et Marthe. Et en fait, il y a comme trois tableaux de Jésus avec de plus en plus de monde, comme s'il y avait une progression de son ouverture vis-à-vis du monde qui l'entoure, qu'il est venu sauver, d'abord dans l'intimité, ce qu'on va voir, ensuite par cette entrée triomphale à Jérusalem, acclamé comme un roi, et finalement, il révèle sa mission clairement au-delà du peuple juif, en s'adressant à ces non-juifs qui sont venus pour la fête. Et par là, il dit explicitement qu'il est venu sauver le monde entier, juif comme non-juif. Et donc ça m'a fait penser un peu à une éclosion progressive de Jésus. Jésus était connu, évidemment, en Galilée, en Samarie, dans pas mal d'endroits. Mais le focus se fait sur Jérusalem, et il est un peu en périphérie au début, à Béthanie. Et il va aller vers Jérusalem, comme vers le but de sa mission. Et donc, ce passage met en fait progressivement en lumière sa raison d'être, sauveur pour tous. Et c'est son dernier témoignage public aussi avant sa mort. Et de façon intéressante, alors après ce passage, vous pourrez continuer à lire, puis je vous invite à lire ces passages toute la semaine, jour après jour. Après ce passage, il y a comme un constat d'incrédulité de l'auditoire de Jésus. Et c'est Jean qui parle plutôt que Jésus, puisque Jésus est parti et est parti se cacher, comme nous dit le passage. Donc ce passage où ça progressivement ça monte comme une éclosion, Jésus s'épanouit, se montre tel qu'il est, tel qu'il doit être, même son Père rend témoignage, se clôt sur une disparition. C'est intéressant. Le premier tableau, c'est Jésus qui soupe ou qui dîne à Béthanie avec ses amis, pendant que les hommes s'agitent à son sujet, puisqu'évidemment, il vient d'avoir la résurrection de Lazare. Jésus, lui, est à Béthanie dans cette maison qu'il connaît bien, maison hospitalière où il aime se rendre. Et là, on lui prépare un repas avec d'autres invités. Tout a l'air paisible, tranquille, harmonieux. Lazare est là, le mort, qui est aussi le vivant maintenant. Il est le mort et le ressuscité à la fois, et évidemment, il attire la curiosité. C'est ça aussi qui nous caractérise. Nous sommes morts dans nos péchés, et maintenant nous sommes ressuscités, vivants pour Dieu, comme nous dit Éphésiens 2. Et Lazare est là, à jouir de cette communion avec Jésus. Il est à table avec lui, et c'est une part précieuse. Marthe est là, fidèle à son poste, elle sert simplement. Marie est évidemment là, celle qui était au pied de Jésus dans d'autres passages. Elle apporte ce fameux parfum pour honorer Jésus. Et dans ces trois personnes, les trois amis de Jésus, finalement, ça fait un peu une synthèse de ce qui devrait nous caractériser, la communion, le service et l'adoration. Et Marthe est différente dans son rôle de précédemment, où elle s'agitait, elle s'affairait, si vous vous souvenez de l'autre passage en Luc 10. Là, elle ne fait pas de réflexion, elle ne s'agite pas, simplement elle sert. Et Marie, qui était au pied de Jésus, si vous vous souvenez, elle apprend tout de lui, elle attend tout de lui, de son Sauveur, elle l'aime. Elle montre maintenant une certaine intelligence de l'amour, et elle apporte au moment opportun quelque chose qui semble avoir été préparé depuis longtemps. Et ce passage, il met l'accent particulièrement sur ce que Marie fait. C'est le moment d'honorer Jésus une dernière fois, celui qui va bientôt laisser sa vie. Elle répand ce parfum précieux sur les pieds de Jésus et elle essuie les pieds avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de cette odeur de parfum. Alors Marie, elle fait des choses pas très conventionnelles, vous en conviendrez. Déjà une femme de bonne famille, comme on pourrait dire. Elle ne défait pas ses cheveux comme ça pour essuyer les pieds d'un homme. Et ensuite, elle brise. Alors, c'est un autre passage qui nous parle du vase brisé. Elle brise aussi ce parfum qui vaut cher, très cher. 300 pièces d'argent, c'était l'équivalent de quasiment un an de salaire d'un ouvrier. Voilà, elle répand son cœur en même temps que ce parfum devant Jésus. Et plus tard, dans la semaine, dimanche prochain, d'autres femmes auront eu à cœur aussi d'embaumer Jésus, d'embaumer son corps en venant très tôt au sépulcre pour accomplir ce geste d'amour. Mais il était déjà ressuscité. C'était trop tard pour honorer Jésus de cette manière. C'est seulement Marie qui a eu ce discernement, cette intelligence spirituelle de ce bon moment et qu'il a fait à propos, avec amour. Et d'ailleurs, Marie n'est pas allée au sépulcre le dimanche matin. Et ça remplit de joie le cœur de Jésus, il semble. Mais tout de suite, des voix discordantes s'annoncent. Et ce passage-là, dans d'autres passages, c'est les disciples qui interviennent. Ici, c'est Judas. À quoi bon cette perte ? Disent les disciples indignés dans Matthieu, en Marc. Ils expriment aussi entre eux leur indignation. Ici, c'est Judas qui dit « Mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum et donné l'argent aux pauvres ?» Quelle incompréhension dans le cœur des disciples et quelle idole dans le cœur de Judas. Il aimait l'argent, il était voleur, ce que nous dit le passage. Et ce triste penchant va l'amener à trahir son maître dans quelques jours pour 30 pièces d'argent. Et finalement, le conduire à une fin tragique où il se suicide. Et face aux critiques des disciples, et notamment Judas dans ce passage, Jésus prend la défense de Marie. Il souligne la valeur de ce qu'elle a fait. Hein, voilà ce qu'il dit au verset 7, « Permets-lui d'avoir gardé cela pour le jour de ma mise au tombeau. » En Matthieu 26, verset 10, il dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. » Alors les disciples prennent l'excuse du service aux pauvres. Et Jésus dit effectivement pas que ça soit pas juste de faire ça, mais ce qui importe finalement, c'est qui tient la première place. Est-ce que c'est notre service? Est-ce que c'est nos actions sociales? Est-ce que c'est notre implication? Ou est-ce que Jésus tient la première place? Et lui seul est digne finalement d'occuper notre cœur. Colossiens 1,18 nous dit « qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. » Je vous encourage aussi à apprendre à laisser le Seigneur remplir d'amour notre cœur et notre vie, comme Marie l'a fait et nous en montre un si bel exemple. Colossiens 3,23 nous dit encore « quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous servez. » À partir du verset 9, on sort un peu de ce tableau-là et de cette maison de Béthanie et on retrouve les foules pleines de curiosité. Et donc les principaux sacrificateurs sont là et tiennent conseil pour faire mourir Jésus. Et puis, il y a un témoin gênant, Lazare. Parce qu'évidemment, Lazare, il est difficile à cacher et sa résurrection témoigne justement de la puissance et de la divinité de Jésus. Et au lieu de se rendre à l'évidence et de croire, leurs cœurs sont endurcis et ils essayent aussi de comploter et de faire disparaître Lazare. Lazare est devenu un objet de curiosité pour les foules. Et ça devrait être la même chose aujourd'hui quand quelqu'un vient à la vie, quand il se convertit, quand il change de vie. C'est quelque chose qui passe pas ou qui devrait pas passer inaperçu. Vous avez peut-être vécu ça vous-même, un changement radical de vie. Vous connaissez des histoires de changements radicaux de vie. Et Satan cherche toujours à saboter finalement ce témoignage, soit en s'attaquant directement à celui qui est l'objet du témoignage et qui appartient au Seigneur, soit en cherchant à détruire le témoignage qu'il peut le rendre par sa conduite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est interpellant pour nous parce que on est souvent un peu pris en défaut quand, par rapport à notre propre témoignage vis-à-vis de ce monde. Mais comme Lazare, même sans exprimer de parole, parce que Lazare ne dit pas un mot dans ce passage, nous devrions montrer vraiment que nous sommes morts au monde et vivons de cette vie de résurrection que Jésus nous offre. Le deuxième tableau de ce passage, après Béthanie et le complot contre Lazare que j'englobe dans le même tableau, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, à partir du verset 12. Jésus est acclamé comme roi, tout d'abord, parce que finalement, malgré la haine des Juifs qui se libèrent déjà dans ces premiers versets, et leur volonté de faire mourir Jésus, eh bien Dieu garde la main. Il garde la main sur tout. Il garde la main sur son plan. Et il veut que son fils soit glorifié comme ça a été annoncé dans Zacharie 9:9. Voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut humble et monté sur un âne. La symbolique du roi sur l'âne, elle est intéressante, vous la connaissez sans doute. Jésus est ce roi humble amenant la paix. Il n'est pas un roi qui arrive sur un cheval comme un guerrier, sur un cheval flamboyant. La foule qui était venue pour voir Lazare le ressusciter, elle se retrouve à ce moment-là aussi et acclame Jésus comme le roi d'Israël, faisant la connexion entre celui qui a ressuscité et le ressuscité. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et quelques jours après, vous savez bien qu'il y a une autre foule qui criera devant Pilate, crucifie-le, en Jean 19. Alors, il y a un débat, est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes qui ont retourné leur veste ou d'autres types de personnes? Les évangiles ne sont pas clairs là-dessus. Mais ce n'est pas certain du tout que ce soit les mêmes personnes, en fait. C'est sans doute les petits, les gens humbles, qui accueillaient Jésus comme leur roi, leur sauveur. Alors, les disciples ne comprennent pas tout de suite ces choses. Ils les comprennent par après, quand Jésus est glorifié, et c'est souvent le cas des disciples, hein, ils sont un peu spectateurs dans la perplexité de ces événements qui se passent devant eux. Ils pensent sans doute que Jésus est effectivement le Messie et qu'il doit être reçu par son peuple et établi son règne, mais peut-être ils ont en tête d'autres schémas un peu plus flamboyants, un peu plus roi dans toute sa splendeur, et pas un roi qui arrive sur son âne. Quand il faut s'enfuir d'être sur un âne, ça ne va pas très vite. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Et Jésus déconstruit un peu les codes. Je voyais récemment, et c'est assez drôle, les gouvernants de ce monde, je vais être très large dans mon anecdote, les gouvernants de ce monde qui se mettent en scène pour montrer leur virilité, leur capacité de guerroyer. Voilà, rien n'a changé. Les attentes des gens, ouais, sauf que maintenant on s'en moque un petit peu. À l'époque, peut-être ça faisait effet, mais... Mais Dieu aime bien déconstruire les choses. Hein, c'était la même chose pour le roi David. Finalement, il arrive devant Goliath, avec une armure trop large pour lui, et vous imaginez la scène. Il faut se débarrasser de ça. C'est le cœur qui fait la différence. C'est le cœur qui fait la différence. Et justement, les pharisiens sont aussi perplexes et ils ne comprennent pas tellement pourquoi un tel Jésus sur son âne a gagné cette influence-là auprès de la foule. Voilà ce qu'ils disent au verset 19. « Vous voyez que vous ne gagnez rien, tout le monde est allé après lui. Tout le monde est en train de le suivre. On est en train de perdre la main. Hein, ils le font entre eux. Ils n'osent pas parler ouvertement. Ils n'osent pas critiquer ouvertement. Mais on voit bien ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Finalement, c'est de se chercher à se mettre en avant et à attirer après soi. D'où toutes ces luttes d'influence, les jalousies, les intrigues, les guerres. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur agit. Parce qu'en fait, si on est attiré vers lui, parce que son amour et sa grâce ont touché notre cœur. 1 Jean 4, 19 nous dit « Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. » Le dernier tableau que je voulais un peu partager avec vous, c'est ces juifs, ces non-juifs ou ces grecs, selon la traduction, qui sont désireux de voir Jésus à partir du verset 20. Et donc ces gens-là se retrouvent aussi à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle aussi les gentils dans certaines traductions. Des gens qui étaient attirés par le judaïsme, mais qui ne suivaient pas toutes les prescriptions. Et c'est des gens dont la parole nous dit que le cœur était quelque part préparé et recherchait Dieu. Et ils étaient montés, verset 20 nous dit, ils étaient montés pour adorer pendant la fête. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Zachée qui cherchait à voir Jésus. Hein, de chercher à voir qui il était, un peu curieux comme ça. Ces hommes aussi désiraient voir Jésus. Ils s'ouvrent aux disciples, à Philippe en particulier, celui-ci parle à André, et puis ensemble ils viennent le dire à Jésus. C'est beau quelque part de voir aussi le service partagé de Philippe et André pour conduire ces gens à Jésus. Vous vous souvenez, André avait déjà conduit son propre frère, Simon-Pierre, à Jésus. Simon qui est devenu un pilier, on va dire, de l'équipe. Et c'est bien ça qui devrait nous caractériser, finalement. Pas chercher à attirer des disciples après nous, ou après notre église, ou notre famille d'église, ou notre je ne sais quoi, mais amener des gens à Jésus. À Zachée, le Seigneur Jésus avait répondu, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu », en Luc 19, 10. Ici, il va répondre aux Grecs, en leur parlant de sa mort et de sa résurrection. Et c'est assez étonnant que, finalement, la façon la plus explicite, c'est vis-à-vis de ces gens-là, qui ne sont même pas juifs. Hein, Jésus proclame par là qu'il est venu pour sauver tout le monde. Alors voilà ce qu'il dit, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié », au verset 23. Alors, vous vous souvenez, Jésus parle souvent de cette heure. Mais à chaque fois qu'il en parle dans l'Évangile jusqu'à ce passage, c'est pour dire que son heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, l'heure est venue. Le moment est tout proche où le Fils de Dieu va donner sa vie, où le grain de blé doit aller en terre et mourir pour porter du fruit. À l'image du grain de blé, elle parlait beaucoup à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais ça fait aussi un rappel de cette parabole du semeur hein, qui sème sa semence. Le grain de blé est semé en terre et il meurt. Il meurt, mais il meurt seulement en apparence parce qu'en fait, il germe. Il germe et il surgit de la terre en portant du fruit, beaucoup de fruits. Hein, je ne sais pas combien un grain de blé peut porter de grain de blé au final, mais quand je fais mes semis de tomates, c'est juste une minuscule graine, et ça part. Et après, si je leur donne bien à manger, j'ai une belle récolte. D'ailleurs, je suis en retard sur mes semis. Christ a dû mourir et être enseveli avant de ressusciter, et il est comme les prémices d'une immense moisson. Alors Jésus avait souvent aussi parlé de sa mort et de sa résurrection comme d'une nécessité. Hein, il dit en Jean 3, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, qu'il soit ressuscité » en Luc 9. Jésus s'est avancé finalement seul face à la mort. Mais il avait devant lui aussi le fruit qui en résulterait et ça réjouissait déjà son cœur comme nous dit Hébreux 12. Le grain de blé, bien que très petit, minuscule, il contient un germe de vie. Lorsqu'il est en terre, la germination, elle s'effectue lentement, progressivement. Une jeune pousse prend naissance, grandit, et la nouvelle plante va croître jusqu'à ce qu'elle porte du fruit, un grand nombre de grains. De façon intéressante, tous ces grains sont issus du même grain et sont donc de même nature que lui. Et c'est une belle image de la mort du Christ et de la puissance de vie qui était la sienne. Il nous appelle aussi à sa ressemblance. Les grains de blé portent donc les mêmes caractères que celui qui est tombé en terre. Et donc on porte aussi les mêmes caractères que Jésus qui nous a sauvés. Et 1 Jean 3,16 qui nous appelle à ressembler à Jésus. Ensuite vient une série de paroles qui mériterait en elle-même une série de messages. On peut dire que Jésus a condensé des paroles choc dans très peu de versets ici. On va en prendre quelques-uns. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Versets 25-26. Waouh. Celui qui aime sa vie la perdra. Vous n'aimez pas votre vie, vous? En fait, qu'est-ce que veut dire Jésus ici? Il veut dire une chose assez simple finalement, c'est que lorsqu'on agit, lorsqu'on se met en action, on le fait soit en suivant notre propre volonté, nos penchants naturels de notre cœur, qui ne sont pas forcément mauvais en soi d'ailleurs, mais si on agit notre propre volonté, ça conduit toujours à une perte, pas forcément de notre vie, mais aussi des fruits que notre vie aurait pu porter. Donc on a soit cette option, soit l'autre, qui est de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. C'est alors qu'on peut suivre le Seigneur, lui ressembler et le servir comme il appelle à le faire. Et c'est bien finalement ce que l'apôtre Paul a réalisé quand il dit en Philippiens 3, « Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées à cause du Christ comme une perte. Plus encore, je considère toutes choses comme une perte afin que je gagne Christ. » Waouh, quelle maturité! Le verset 26 s'adresse aussi à nous, chacun, directement. Hein, ça commence par « si quelqu'un ». Et on trouve cette expression à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Hein, « Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, dans Jean 3. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, dans Jean 6. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ainsi, pour suivre et servir Jésus, il faut d'abord être né de nouveau, puis nourri, désaltéré par lui, et ensuite on peut marcher sur ses traces. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Luc 9, versets 23-24. Bien sûr, en lisant ces lignes et telles paroles qui défient nos propres vies, on est amené à se demander devant Dieu quel but on poursuit dans notre propre vie. Est-ce qu'on veut gagner le monde entier? Est-ce qu'on veut satisfaire nos désirs, nos ambitions et faire finalement la perte de notre âme ou de notre course chrétienne? Ou est-ce que notre désir, c'est vraiment de suivre Jésus pour le servir? Et alors, il y a une double récompense quand même. Première récompense, c'est là où je suis sera aussi mon serviteur. Être avec le Seigneur. Aujourd'hui dans le service, peut-être dans les difficultés, dans la souffrance, mais être en sa compagnie. Jour après jour, dans notre marche. Et bientôt pour l'éternité, avec lui dans le ciel. Là où je suis, vous aussi, vous serez, dans Jean 14. Et puis le deuxième élément, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, être honoré du Père. Pas trop ce que ça veut dire être honoré du Père. Il y en a qui parlent de couronne. En tout cas, doit avoir un prix immense pour notre cœur, être honoré du Père. J'arrive gentiment à ma conclusion. Et si on regarde la vie de Jésus à ce moment-là, il va explicitement parler de l'heure de sa mort. Et c'est vrai que Christ, c'est le serviteur parfait. Et son amour pour Dieu, il est finalement sans faille, fort comme la mort, comme dirait le cantique des cantiques. Et son seul désir est d'honorer son Père. C'est pour ça qu'il est venu. Et à ce moment-là, si vous lisez le verset 27, vous voyez, voilà, il dit « Maintenant, mon âme est troublée. » Et c'est pas la première fois que l'âme de Jésus est troublée. Déjà, au chapitre précédent, devant le tombeau de Lazare, Jésus, en voyant les conséquences de la mort des hommes, frémit en son esprit et se troubla. Il pleure même. Et au moment de la trahison de Judas, un peu plus tard, au chapitre 13, il sera encore troublé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit. Donc Jésus est pleinement humain aussi. Mais il est là en pleine soumission à la volonté de son Père pour le glorifier aussi bien dans sa vie que dans sa mort. Et on assiste alors à cette conversation intime entre le Père et le Fils. Jésus qui dit cette phrase tellement forte, « Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela, c'est pour cette heure que je suis venu. « Père, glorifie ton nom. » Comme s'il se ressaisissait poursuivant sa mission jusqu'au bout. Jésus savait qu'il allait devoir prendre sur lui nos péchés, qu'il allait les porter sur le bois de la croix. Il était saint et pur, il faut toujours se le rappeler, il n'avait connu ni commis de péché. Et donc c'était quelque chose de terrible. Comme ça qu'il faut entendre quelque part ce « Père, délivre-moi de cette heure ». Et Jésus avait déclaré un peu plus tôt, quand il ressuscite Lazare, « Je savais que tu m'entends toujours. » Mais c'est pour eux que j'ai dit ça. Et de la même façon, la réponse du Père ne se fait pas attendre, et une voix sort du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. C'est la troisième fois que la voix divine se fait entendre dans le ciel, du ciel, au moment du baptême au Jourdain, et puis sur la montagne de la Transfiguration, où cette voix avait proclamé « C'est mon Fils bien-aimé ». Et maintenant, la même voix déclare que le nom du Père a été glorifié et qu'il le sera encore. La foule ne comprend pas ce qui se passe exactement. Ils pensent que c'est un ange, un tonnerre. Mais encore une fois, c'est un témoignage direct, on va dire, de Dieu à la mission de Jésus. Le verset 30 est intéressant, Jésus dit « C'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. » Et quelque part, ça résonne aussi en moi dans le fait que, et on en connaît sans doute tous, des gens qui ont entendu le message, qui ont entendu la voix de Dieu, qui annonce la grâce et le salut, et qui malheureusement ne répondent pas oui, refusent de croire. Ça induit une grosse responsabilité parce que la voix qui accueille, qui attire à lui, c'est aussi la voix qui sera celle du jugement à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ces circonstances-là ? Ben, se mobiliser dans la prière et continuer à faire entendre cette voix. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se dire ben, « ils ont entendu et de toute façon, ils savent ». Continuons à persévérer dans notre témoignage, dans nos familles, dans notre entourage. Pour finir, les versets 35 et 36 donnent quelque part le secret des différents comportements des hommes. Et la question à ce moment-là, c'est de savoir si on est disposé à se laisser éclairer, pénétrer par la lumière divine ou pas. Alors on a lu au début de l'évangile de Jean, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue ou l'ont pas comprise. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière car leurs œuvres étaient mauvaises dans Jean 3. Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quelle responsabilité pour tous ces hommes au temps de Jésus. Ils avaient la lumière divine au milieu d'eux et n'en voulaient pas, préférant rester dans une obscurité morale et spirituelle. Bientôt, manipulé, devenu le jouet de Satan, le prince des ténèbres, Jésus annonce aussi que ce prince va agir maintenant dans les prochains jours. C'est cette foule qui allait réclamer la mort de Jésus, du Fils de Dieu, pour finalement se débarrasser de la lumière qui l'a condamné. Et notre passage en tout cas, se clôt là-dessus. Après avoir dit ça, Jésus n'a plus rien à dire. Il laisse les hommes faire leur choix de croire ou de ne pas croire. Ceux qui veulent de lui le suivent, vont vers la lumière. Lui va s'en aller et se cacher de devant eux. Et Jésus maintenant va réserver ses derniers moments aux siens, à ses disciples, à ses proches, pour se préparer pour sa mission finale. Et je vous invite vraiment à lire, peut-être aussi aider de méditation quotidienne cette semaine, les prochains textes de l'évangile de Jean ou des autres évangiles. Voir cette progression, il y a Jean 14 qui est un fameux passage aussi. Amen. J'aimerais prier. Ouais, Seigneur, merci parce que tu es allé jusqu'au bout de ta mission. C'est forcément pas assez de se remémorer ça une fois par an. C'est pour ça qu'on le fait régulièrement dans cette église, de dire combien ton sacrifice change tout. Pas juste anecdotique. Tu t'es livré, tu es allé jusqu'au bout. Tu as fait le dernier kilomètre, chargé de ta croix, pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que tu voyais aussi les fruits, et nous sommes les fruits de ce sacrifice aujourd'hui. Et des millions et des milliards de personnes sont les fruits de ce sacrifice aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais te remercier. Je voudrais te rendre toute la gloire et l'honneur parce que ouais, tu es ce grain de blé mis en terre, éclos et ressuscité et qui porte du fruit à foison. Et on veut être intime avec toi, Seigneur, comme Marthe, Marie et Lazare. On veut apprendre à te connaître de plus en plus. Toi, le roi de gloire qui est venu sur un âne, humblement, qui marche à nos côtés, qui nous porte jour après jour dans nos difficultés, dans nos soucis, dans nos épreuves, dans nos joies, tu es là. Ouais, je veux te remercier pour tout ça. Et que cette semaine de commémoration soit aussi différente, qu'on puisse vraiment prendre ce temps de lire ta parole, de la méditer, de prendre conscience de tout à nouveau de ce que tu es venu faire pour nous. Qu'on puisse y répondre avec joie et avec un cœur de serviteur et de servante. Gloire à toi Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs ici ce matin, ceux à distance, que tu sois une présence spéciale dans cette semaine. Amen.